appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs, votre magazine d'échange et de partage. Le premier forum national du cadre des concertations de la société civile sur le programme désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation et les plans de transition de la MONUSCO s'est clôturé la semaine dernière à Goma au Nord Kivu. Les participants ont recommandé la création d'un mécanisme de concertation et de collaboration entre la société civile et les PDDRCS. Les participants veulent que les experts de la société civile soient intégrés dans les organes fonctionnels de PDDRCS à tous les niveaux, aussi bien nationaux que provinciaux et locaux, pour donner la chance à la réussite de ce programme. Selon vous, quels sont les préalables pour réussir d'une manière efficace ce programme? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine mis en onde par Bob Landou. Louange Vangou assure la réalisation et quant à moi, Pierrot et la Meiji, c'est un réel plaisir de vous les présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à toutes et à tous.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience
qu'il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Vous pouvez également écouter Parole aux auditeurs sur www.radiocapier.net, mais aussi les débats se tiennent sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Et la question principale pour notre échange de ce jour, c'est quels sont les préalables pour réussir d'une manière efficace le programme des désarmements, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Voilà, et pour en parler, nous recevons dans ce studio Monsieur Tomine Tambouin, coordonnateur du programme des désarmements, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Monsieur Tambouin, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est le début de l'année, au nom de tous les auditeurs, nous vous présentons nos voeux les meilleurs.
Merci beaucoup.
Et nous parlons de PDDRCS. On sait que ça c'est difficile actuellement pour prononcer. Alors vous avez effectué dernièrement une tournée dans les provinces de l'Est qui sont concernées encore par des questions d'insécurité et même par la majeure partie du travail de ce programme. Quel est l'état des lieux aujourd'hui de la situation sur le terrain avant que nous puissions évoquer ce qu'il faut faire pour réussir ce programme?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Permettez-moi d'abord de saluer tous les auditeurs qui nous écoutent à ce moment, mais également permettez-moi que je leur présente le vœu le meilleur de bonheur, de prospérité et de longévité pour cette année 2022. Avec Dieu, nous croyons que tout va aller très bien.
Merci.
Par rapport à votre question sur l'état des lieux. Exactement. J'ai effectué plusieurs déplacements dans les provinces, en commençant par le Nord Kivu. Je suis allé à Beni, je suis allé dans la province de l'Ituri. Et mon adjoint aussi a fait une mission dans la province du Sud Kivu. Nous avons retenu à travers ces trois provinces, qui sont des provinces pilotes, plusieurs réalités. D'abord, il faut reconnaître que chaque province a ses spécificités et ses réalités. Mais également, il faut reconnaître que les groupes armés locaux ont chacun ses revendications. Et aussi, il faut reconnaître que dans ces provinces, les trois provinces, il y a les groupes armés étrangers et chaque groupe a aussi sa spécificité. Donc, ce qui se passe, par exemple, dans le Grand Nord, mm-hmm. avec le ZADF, n'est pas la même chose avec ce qui se passe dans la plaine de la Rougézie, dans la province du Sud Kivu, ou dans le Moyen Haut Plateau, mm-hmm. où vous avez pratiquement les réalités régionales, où vous avez des pays aussi qui ont des groupes armés, de pays voisins, et qui font des incursions et qui travaillent en collaboration avec les groupes armés locaux. Et donc nous avons brièvement reconnu toutes ces réalités, mais aussi nous avons reconnu qu'il existe les combattants étrangers qui sont dans le groupe rebelle. Par rapport à la stabilisation ou à la question du relèvement communautaire, nous avons reconnu également que chaque province a ses réalités, d'autant plus que quand vous êtes en Ituri, vous voyez même le niveau de destruction. Quand vous êtes au niveau du Nord Kivu, vous avez d'une manière particulière le Grand Nord qui est déchiré, presque dans un état où les populations ont fui leurs entités et ils se concentrent pratiquement dans la ville de Beni. Et dans le Sud Kivu, vous avez également les mêmes réalités de populations qui fuient chaque jour, qui abandonnent les hauts et moyens plateaux. Rien que hier, nous avons enregistré à partir de Baraka des mouvements massifs dans le moyen plateau, dans la ville d'Ouvira aussi, même de la plaine, des gens qui ont quitté les hauts et les moyens plateaux. Tout ça, ce sont deux réalités que nous avons retenues. Et ceci va nous amener à travailler, à intégrer dans le plan d'action et même de la stratégie nationale.
Alors, quand on regarde aujourd'hui ce programme, avant peut-être d'évoluer, vous avez dit, chaque province a sa spécificité. Ici, on a eu, lors de la première guerre, si on peut dire ici, la Commission nationale des armements qu'on appelait CONADER, il y a eu le programme d'EDER qui a continué. Alors, quelle est la spécificité du programme actuel par rapport à d'autres programmes qui ont déjà existé sur la question de la démobilisation et réinsertion communautaire?
Oui, disons que nous avons connu le DDR1 depuis 2003 avec le CONADER, nous avons connu le DDR2, nous avons connu le DDR3. Aujourd'hui, nous sommes au DDR4, que nous appelons aujourd'hui le PDDRCS. Le D3 DDR concernait uniquement le désarmement et la réinsertion des ex-combattants. Tandis que le PDDRCS est une sorte d'école de la vie où vous avez d'un côté le DDR, il y a trois dimensions dans le PDDRCS. Vous avez le DDR, donc le désarmement, la démobilisation, le relèvement communautaire. Donc, vous avez également la stabilisation. Je disais qu'il y a trois dimensions. Première dimension, c'est le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants. La deuxième dimension, c'est le relèvement communautaire. La troisième dimension, c'est la stabilisation et développement. Voilà la spécificité qui n'était pas dans d'autres DDR. Ensuite, il y a un élément important dans l'actuel DDR ou le PDDRCS, c'est qu'il y a l'élément qu'on appelle le DDR civil. Ça veut dire que dans ce DDR, nous travaillons pour le désarmement des ex-combattants afin de rentrer dans la vie civile au sein de leur communauté et non pas une intégration automatique
dans l'armée.
Des ex-combattants dans l'armée et dans la police. Mais également, nous travaillons comme dans une dimension de la formation de l'éducation à la citoyennisation, à la transformation, à la réintégration socio-économique des communautés et des ex-combattants. Voilà la spécificité de ce programme.
Et en vous écoutant, on se rend compte que non seulement la tâche est immense, mais il y a aussi la complexité de la question. Quand vous avez évoqué l'état des lieux par rapport à la spécificité de chaque province.
Oui, bien sûr. Mais nous essayons de travailler. Et tout cela est contenu dans un document qui est déjà disponible, qu'on appelle la stratégie nationale PDDRCS. Chaque fois, même les agences, les bailleurs, la communauté internationale nous demandaient « Oui, nous avons l'ordonnance, nous entendons parler du PDDRCS, mais qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui va nous montrer que c'est différent avec les autres programmes? Est-ce que vous avez quelque chose de concret ?» Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir à notre niveau concis le premier draft qui reste à valider, bien sûr, par l'hiérarchie. C'est le document qu'on appelle stratégie nationale de désarmement, de démobilisation, de relèvement communautaire et de stabilisation. C'est un élément très important.
Voilà, nous allons revenir à vous, hein, parce que là, après l'état des lieux, on ne peut pas savoir à quel niveau en sommes-nous aujourd'hui. Il y a déjà la stratégie. Il prévoit quoi exactement? On va commencer par quoi pour arriver à quel résultat? Ça sera abordé tout à l'heure. Alors, nous avons les auditeurs qui sont en ligne. Maître Mbokolo, vous nous appelez d'Mbandaka, Deo Itakananga, Olivier Takikuit. Hein. Je rappelle que la question principale de notre échange, c'est comment arriver, en fait, quels sont les préalables pour réussir d'une manière efficace le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Et nous en parlons avec M. Tomi Ntamboué, coordonnateur de ce programme. Alors, Maître Bokolo, vous êtes en Mbandaka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour M. Pirot, bonjour également au coordonnateur, l'invité du jour.
On vous écoute. Pour vous, quels sont les préalables pour réussir d'une manière efficace ce programme?
Merci pour bien réussir dans ce programme d'EDR. Je pense que je viens de suivre l'invité. C'est un bon programme et un très bon mécanisme mais que le gouvernement a mis en place avec l'appui de la MONUSCO ainsi que d'autres partenaires pour le désarmement. Mais moi, je pense que ici, si nous suivons même le vif même de l'émission au sujet de je ne sais pas comment appeler ça, la rencontre ou la revue ou ce qui a été fait entre la société civile, les programmes d'EDRC ainsi que la société civile, je pense que ici, dans un premier temps, moi, en ce qui me concerne, je ne partage pas d'avis avec ceux qui disent qu'il faudra associer la société civile dans ce programme. Parce que vous allez voir que la société civile, c'est un groupe de pression. Donc, c'est un groupe de gens habilités à dénoncer, habilités à accompagner, bien sûr. Mais là, comme c'est un programme du gouvernement mis sur pied pour le désarmement et la réinsertion sociale, je pense qu'il faudra ici que le gouvernement, le programme, donc la coordination de ce programme, travaille uniquement avec les bailleurs de fonds et avec des services qui peuvent appuyer logistiquement sur le plan de la logistique, par exemple la MONUSCO, comme la MONUSCO a toujours avait fait avec Conader. Parce que lorsqu'on associe la société civile à l'intérieur de ce programme, je pense que demain, s'il y a des cas, par exemple, le programme n'aboutit pas, ou il n'y a pas réellement le désarmement, le programme n'a pas produit les résultats escomptés, je pense que la société civile, qui est du côté de la population, ne saura pas dire à cette population qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, parce que la société civile, elle-même, sera dedans, au niveau national, provincial, local et consort. Je pense que dans ce mécanisme qui doit être créé, je pense qu'on doit élarguer la société civile, rester avec la coordination de DEDER, ainsi que la MONUSCO, ainsi que d'autres partenaires au niveau international. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis ici, lorsque j'ai suivi l'invité, vous l'avez posé la question de nous donner l'état des lieux de ce programme dans les provinces visées, Nord-Kiv, Ituri, Sud-Kiv. Je pense que ce qu'il a cité n'est pas, pour le moment, jusqu'alors, n'est pas un état des lieux. On n'a pas compris, jusqu'alors, qu'est-ce qui a été fait. Parce que lorsqu'il évoque, par exemple, la spécificité DDR civile. Je pense que l'objectif même de désarmement, du programme de DDRC, c'est justement pour le désarmement et réintégrer ces personnes dans la communauté. Donc ce n'est pas, vous allez voir que le prolongement des CONADER, des DDR, DDRB, il n'y a pas vraiment de changement. Donc ici, moi je pense que dans le cadre préalable, pour réussir à ce programme ici, ce programme est conditionné de la réussite de l'état de siège. Parce que ici, vous allez voir qu'ils vont, ils parlent sur la réinsertion de la communauté, des combattants de la communauté, et également pour les civils qui vivent dans ces communautés-là. Aujourd'hui, si l'état de siège ne réussit pas, n'aboutit pas, comment nous allons arriver à pouvoir réinsérer le militaire ou les ex-combattants? Ça, c'est de un. De deux, il a évoqué le problème de groupes armés étrangers. Si aujourd'hui on réussit à réinsérer ou désarmer les groupes locaux, les armées locaux, comment nous allons faire pour que les groupes armés étrangers puissent soit réintégrer chez eux, soit être réinsérés? Vous voyez, ça sera un problème sérieux. Voilà pourquoi moi je dis qu'ici, pour que le programme de DDR puisse réussir, le gouvernement doit d'abord assainir ce secteur de sécurité, notamment la réussite de l'état de siège est une condition sine qua non, un préalable nécessaire pour que ce programme soit abouti. Mm-hmm. Sans la réussite de l'état de siège, en tout cas, tout ce qu'on
alors, fait. Alors, maître Mbokolo, aussi, quand on a fait l'état des lieux tout à l'heure avec l'invité, c'était pas en termes de fonctionnement du programme dans les provinces précitées. C'était en termes de la situation sur terrain. C'est pourquoi l'invité a dit, voilà ce que nous avons trouvé sur terrain. Il y a des groupes armés, congolais, étrangers, tout ça. Alors, vous estimez que pour que le programme puisse réussir, il faut d'abord qu'il y ait la réussite de l'état des sièges. Alors, quand vous parlez de la réussite de l'état des sièges, c'est ça, en termes de combat, d'imposition de la paix par force, mais ou bien c'est aussi en termes de sensibilisation pour que les groupes armés, que les combattants quittent les groupes armés.
Bon, moi je pense que ici, dans l'état de siège, lorsqu'il a été instauré, en fait, parce que l'objectif même de l'état de siège ou l'objectif du président de la République était de trouver des solutions idoines pour réussir la sécurité à l'est du pays. Et nous avions toujours dit que cette réussite ne peut se faire que par force. Il y a aussi les dialogues. Il peut intervenir. C'est-à-dire que les chefs militaires qui sont nommés pour gérer les provinces qui sont concernées, Nord Kivu, Ituri, ne sont pas là seulement pour riposter sur le plan militaire, mais également se trouver des solutions, approcher la communauté, approcher les groupes armés pour trouver une solution. Aujourd'hui, si nous avons des groupes armés qui se disent que oui, nous abandonnons la forêt, nous abandonnons la peur de Ruzizi, nous abandonnons la guerre, et nous voulons maintenant intégrer les forces armées de la RDC, où nous voulons rentrer dans la société, je pense que ce serait une bonne chose. Donc vous allez voir que le programme DDR ne peut pas travailler en solo sans pour autant associer les aspects qui concernent l'état de siège. Parce qu'aujourd'hui, le programme va fonctionner où? S'il y a la guerre à l'Ituri, s'il y a la guerre au Nord Kivu, le DDR va fonctionner comment? Donc il faut d'abord que la guerre, soit, cette situation soit d'abord résolue, pour que le DDR fait les programmes de désarmement.
Alors voilà. Alors, merci beaucoup, maître Edmond. Alors l'invité pourra nous expliquer. Est-ce que le fonctionnement du programme dépend seulement de la fin totale de la guerre pour commencer maintenant à réinsérer, ou le programme se déroule tout en étant dans cette situation de guerre? Merci beaucoup. Alors, Deo, vous êtes à Kananga. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour aussi à notre invité et à des milliers de Congolais qui nous suivent.
Alors, pour merci. Vous, quels sont les préalables pour la réussite de ce programme?
Ok, merci beaucoup de nous avoir associés à ce programme. Les préalables sont intelligents, mais je parlerai à trois points. Mm-hmm. Je parlerai des préalables et de l'association de la société civile et aussi de certaines conséquences. Monsieur Pierrot, n'oublions pas que le DDRSC, c'est un bon programme. Si ça aboutissait à une réussite et à l'intégration d'une paix sociale, mais ça sera un échec. Si, n'est-ce pas, ça ne réussissait pas et ça créera des conséquences fâcheuses. N'oublions pas que ce programme a débuté il y a très longtemps, mais moi je suis en train de comprendre que la multiplication de certains groupes armés, c'est dû à l'échec de ces programmes. Pourquoi je dis cela? Parce que à tout moment, il y a quelques années, nous constatons qu'il y a des redditions. Parce que quand on sensibilise, le gouvernement fait l'appel à la démobilisation, les groupes armés parviennent à comprendre et se démobilisent. Mais l'intégration, en tout cas, ça pose problème. Ça pose problème parce que on n'identifie pas quels sont les problèmes majeurs que les groupes armés revendiquaient. C'est ça le premier préalable. Avant, n'est-ce pas, de faire intégrer ou d'appeler les groupes armés à la reddition, on doit d'abord identifier les problèmes de chaque groupe armé. Et quand on doit identifier les problèmes, le gouvernement va savoir, n'est-ce pas, tracer son budget, son programme pour dire, nous devons, n'est-ce pas, maintenant les orienter dans quel secteur au cas où ils nous démobilisent. On doit créer des centres d'encadrement et de formation dans presque toutes les provinces. Et équiper aussi ces centres-là, mm-hmm. avec des moyens techniques, les moyens logistiques, les moyens financiers, avec des personnes
capables. Alors, si on vous suit bien, Déo, vous avez dit pour vous, Déo, s'il vous plaît.
Pour encadrer ces gens-là.
Voilà. Déo, votre premier préalable. Votre premier préalable tourne autour.
Quand ils ont déjà pris les armes, ils ont déjà un autre cerveau semi-humain. Parce que ils sont, n'est-ce pas, le mode d'opération contraire à une vie.
Alors, Déo, si on s'écoute, Déo, si vous m'écoutez. Alors, vous avez dit pour vous, le premier préalable, il faut d'abord écouter et identifier le problème spécifique de chaque groupe armé et la réponse va être liée à ça. Alors, le deuxième préalable, rapidement.
Le deuxième préalable, c'est que on doit, n'est-ce pas, créer des centres de formation et d'encadrement et aussi à déployer l'équipe des techniciens, les psychiatres, les toxicomanes. Tous ces gens-là doivent assurer le suivi permanent de ces groupes armés, afin, n'est-ce pas, de leur laver leur cerveau. Le troisième, n'est-ce pas, je parle maintenant de l'association de la société civile. Donc moi, je ne partage pas l'avis avec ceux qui refusent ou ceux qui acceptent, mais moi, j'aime relativiser cet aspect des choses. Pourquoi? Nous, population, nous avons chaque fois l'habitude d'indexer le gouvernement quand il échoue. Nous disons que le gouvernement mal fait. Mais quand le gouvernement fait association sur la société civile, c'est pour qu'on partage un peu les responsabilités. D'une part, la société civile aura aussi sa mission d'écouter de plus près et de faire un suivi de plus près. Mais quelle société civile aussi a sélectionné? N'oublions pas que dans la société...
Maître Bokolo disait tout à l'heure, en fait, tout est parti de ces plaidoyers de la société civile qui estime qu'il faudra que ces experts soient intégrés dans les organes de gestion du programme. On va écouter les coordonnateurs. Il y a quand même, n'est-ce pas, une loi, une ordonnance qui fixe les organes du programme. Faudra-t-il aujourd'hui y insérer les membres de la société civile? Vous estimez que c'est mieux pour qu'il y ait aussi un œil, puis que les responsabilités soient partagées. Merci beaucoup. Alors, on va écouter Olivier revenir dans ce studio pour que le coordonnateur puisse réagir. Olivier, vous êtes à Kikwite. Alors, pour nous, c'est de savoir quels sont les préalables. On doit réussir le programme et d'une manière efficace, qu'est-ce qui doit être fait, Olivier? Vous êtes à Kikwite. Bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et bonjour à l'invité, à tous les auditeurs.
On vous écoute, oui.
Voilà, moi je pense que le premier grand préalable, c'est d'abord avoir la volonté de résoudre les problèmes. Ça, c'est le premier grand préalable. Et là, je me dis que c'est la volonté politique. Pierrot, cette volonté politique doit nous mener à quoi? Doit nous mener à des choses très simples, c'est-à-dire refaire l'armée. Parce que les groupes armés sont armés et parfois plus que notre armée. Alors vous comprenez que, d'abord, on ne peut pas. C'est une guerre qu'on est en train de vouloir finir. Et on ne peut pas aller à la guerre les mains bredouilles, on va comme ça, on dit voilà, par la bonne foi, il va me céder ses armes. Ce n'est pas possible. Donc moi je crois qu'on ne doit pas se situer on ne doit pas penser que c'est une question de morale, on va faire un discours de morale, et puis ces gens-là vont revenir. Il faut qu'il y ait aussi une armée pour faire son travail. Ça c'est une première chose qu'on ne doit pas oublier. L'armée est très importante, et pour le moment, tout est clair, on a démontré un peu partout qu'il y a des problèmes de ce côté-là. Et je vous rappelle une chose, il n'y a pas longtemps, le président Félix a été à Ditouri, à Bounia, il a dit clairement qu'il y avait des mains sales au sein de l'armée, il y avait des taupes au sein de l'armée. Et donc, parmi les préalables, il faut aussi que la sécurité nous permette de retrouver ces taupes et de les mettre hors d'état de nuire. Or, jusque-là, depuis que le président parlait, je ne pense pas qu'on a nettoyé. Il faut un nettoyage très clair au sein de notre armée. Ça, c'est une deuxième chose. Alors, une autre chose, Pierrot. Les groupes armés sont des gens qui sont, certains sont fabriqués pour des intérêts économiques. Alors, lorsque nous ne savons pas, nous-mêmes, nous n'avons pas l'État n'a pas son autorité sur tous les territoires, c'est clair, chacun Moi, ici, écoute, je vais dire, bon, voilà, j'ai trois amis, et nous achetons les armes, et on se ligue à groupe armé, et nous allons trouver du soutien à Kinshasa. C'est ça. Et donc, je pense que les services de sécurité doivent être remis en état. Je rappelle, il y a quelques années, il suffisait que quelqu'un dise, voilà, moi, je vais acheter une arme. Eh bien, la mère était informée le même soir, et les bureaux d'aide étaient informés le même soir. Mais pourquoi cela ne se fait pas aujourd'hui? Parce que les gens n'ont pas intérêt à ce que la situation soit normalisée. Et les gens n'ont pas intérêt, pourquoi, Pierrot? C'est que, vous avez le commerce, les armes se vendent très bien. Vous avez, les mines sont exploitées très bien, la prostitution est entretenue, et tout le monde y trouve son compte. Et donc, parmi les préalables, Pierrot, il faut que l'État dise... Voici ce que je veux faire. Les discours, et moi je crois qu'on ne doit pas dire que le désarmement va résoudre les problèmes. Il faut que l'État fasse d'abord quelque chose avant que ces organisations viennent nous aider. Et il y a des mécontentements. Je vous signale qu'avec la CONADER, les personnes censées être bénéficiaires du programme n'ont reçu que des miettes. Et ça crée des mécontentements. Et donc, il y a ce problème aussi qu'on doit revoir. On va désarmer. Pour faire quoi? On va donner quoi? On me donne une chemise, on me donne des sandales, on dit qu'on m'a réinséré, on m'a remis en état. Il y a eu 100 dollars contre une arme. Toutes ces histoires-là n'ont servi à rien. Parce que le vrai problème n'a pas été résolu et le vrai problème, c'est d'abord l'État. Que veut l'État? Que veut l'État congolais? Ça, c'est une chose. Les groupes armés étrangers, ce sont les groupes armés que nous ne contrôlons pas, c'est vrai. Mais si l'État est fort, aux frontières, si l'État est fort à l'intérieur, Pierrot, on ne peut pas vivre 10, 15 ans en parlant de désarmement. Moi, si je suis armé, je ne peux pas venir dire, écoutez, je vous donne mon arme parce que je voudrais devenir civil. La vie des civils n'est pas une vie qui attire les gens. Aujourd'hui, les infirmiers, il y a des infirmiers parmi ces groupes armés, il y a des médecins qui sont là, il y a des agriculteurs. Mais tous partent parce que être civil.
Alors pour vous, Olivier, vous estimez qu'il faut d'abord la volonté politique de pouvoir concrétiser cela. Il faut que l'État impose son autorité parce qu'il y a des intérêts économiques et les gens n'accepteront pas facilement d'abandonner les armes pour devenir civils parce qu'ils ont des intérêts économiques dedans. Et puis il y a aussi l'efficacité du mécanisme. Hein. Qu'est-ce qu'on donne à ceux qui abandonnent? On pourra voir avec notre invité. Alors, 081-890-4969. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Nous allons revenir dans ce studio pour que notre invité puisse réagir tout à l'heure à ce qui a été dit par les auditeurs. Mais je rappelle encore à nos auditeurs que vous pouvez continuer à débattre les sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs.
Paroles aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et nous revenons directement à vous, Monsieur Tommy Tamboué, coordonnateur du programme Désarmement, Démobilisation, Réinsertion Communautaire et Stabilisation. Vous avez suivi les compatriotes, hein. On a posé le diagnostic, vous l'avez dit, mais ils ont quand même quelques préoccupations, des fois qui se recoupent. Hein. On parle il faut d'abord qu'on vous aide à instaurer l'autorité de l'État, il faut imposer les désarmements par force, il faut la question de la sécurité qui doit être réalisée. Et c'est tout ça pour eux qui estiment que si cela est fait, ça peut maintenant conduire à la réussite du programme. Votre réaction?
Merci beaucoup, Monsieur Pierrot. Permettez-moi d'abord de remercier tous ces intervenants de tout à l'heure. J'ai vu qu'ils comprennent effectivement les réalités du programme DDR1, DDR2, DDR3. Et j'ai vu qu'ils sont vraiment attachés à l'esprit, à la volonté de mettre fin au phénomène de groupes armés, mais surtout à l'insécurité dans notre pays. Lorsque notre auditeur de Mbandaka a parlé de l'implication de la société civile dans le programme, il est vrai que l'ordonnance qui crée le programme insiste pour que nous puissions travailler avec toutes les parties prenantes. Donc la société civile n'est pas obligée, il n'est pas dit dans l'ordonnance que la société civile doit absolument avoir tel ou tel poste. mais leur implication. Ici, il faut la prendre en termes des organisations de la société civile.
Oui.
La coordination ne peut pas tout faire. Il y a des ONG, des droits de l'homme, il y a des ONG qui travaillent dans l'humanitaire, il y a des ONG qui travaillent dans ce que nous appelons le suivi psychosocial, il y a des organisations qui travaillent dans le suivi psychosomatique, il y a des organisations qui travaillent dans le vetting, il y a des organisations qui travaillent dans la réinsertion des enfants, dans la réinsertion communautaire, dans ce que nous appelons le relèvement communautaire, qui travaille dans la stabilisation. Donc c'est de ça que nous parlons. Donc les utiliser sur terrain n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est une bonne chose. C'est une façon de travailler en synergie pour avoir des résultats et non pas que l'État prenne tout, travaille tout et ça soit seulement les bailleurs. Et nous, nous sommes d'ailleurs contre cette politique-là. Nous, nous voulons utiliser des organisations locales, des organisations nationales, mais aussi qui peuvent de la même manière aussi bénéficier de l'appui du gouvernement et des bailleurs que d'utiliser seulement les organisations internationales. La deuxième question que j'ai entendue ici, monsieur le journaliste, c'est par rapport au conditionnement de la réussite de l'état de siège pour faire réussir ou pour faire fonctionner le PDDRCS. Là, je voudrais donner quelques précisions. Le PDDRCS, c'est un instrument, d'abord, qui accompagne l'état de siège. Et c'est un programme national. Ce n'est pas un programme seulement pour deux provinces. Ça, c'est un détail très important. Ne travaille pas seulement pour le Nord Kivu et l'Ituri. Parce qu'au Sud Kivu, il n'y a pas l'état de siège. Dans le Tanganyika, il n'y a pas l'état de siège. Dans le Maniema, il n'y a pas l'état de siège. Dans le Haut-Katanga, il n'y a pas l'état de siège. Je vais encore très loin. Dans le Kassai, il n'y a pas l'état de siège. Alors, donc, le programme est national. Et le programme concerne toutes les zones qui ont été frappées par les conflits. Et donc, ici, par rapport à l'état de siège, de précisions de taille sont celles-ci. D'abord, lorsqu'il y a des opérations, ceux qui se rendent, quelles sont les organisations qui doivent les prendre? C'est le PDDRCS. En accompagnant l'état de siège, nous accompagnons les opérations. Nous n'accompagnons pas seulement l'état de siège, nous accompagnons les opérations militaires. Lorsque l'armée traque, il y a ceux qui se rendent volontairement à cause de la menace, à cause de la force de coercition de l'armée nationale et de la police. Alors, il y a des gens, des groupes armés qui disent, nous, au lieu de mourir sur le front, nous préférons nous rendre. Ils se rendent. Sauf là, quand ils viennent, quelle est la structure qui va les accueillir? Qui va les encadrer? C'est cela. Et l'armée, d'ailleurs, dans l'évaluation qui a été faite par le Parlement, on a constaté qu'il y avait un retard dans la mise en œuvre du programme PDDRCS.
Alors que sur le terrain, il y avait déjà des combattants qui déposaient les armes.
Alors aujourd'hui, depuis 2000, je vais donner quelques détails ici. Avant que ce programme ne naisse, en 2019, lorsque le président Félix Antoine Tshisekedi a été déclaré vainqueur, il a prononcé son discours. Il y a eu des groupes armés qui se sont rendus sans qu'il y ait même un coup d'effet. Donc, c'est ce que nous voyons aujourd'hui à Mubambiro. Vous avez un nombre important là-bas. Vous avez à Rumangabo. Donc, je peux même vous donner des chiffres. Donc, nous avons à Mubambiro. Nous avons à Rumangabo. Nous avons à Kalunguta. Vous comprenez, nous avons à Njugu. Nous avons des groupes qui sont à Kalehe aujourd'hui, à Ziralo. Nous avons des groupes qui sont dans les Tanganyika, qui ont accepté de rendre les armes. Ce groupe-là n'a jamais connu ce qu'on appelle les opérations de désarmement. et de démobilisation. Et maintenant, à travers ce micro, je voudrais vous annoncer que déjà, les opérations commencent cette semaine qui commence. Les opérations techniques de désarmement et de démobilisation.
Et là, c'est comme si vous avez déjà annoncé l'opérationnalisation de programme. Alors, il y a Deo qui est revenu sur la question de la société civile, mais dans ses préalables, il évoque l'accompagnement des psychologues, de toutes ces personnes qui doivent en principe accompagner les centres qui seront installés.
Oui, c'est ça effectivement ce que nous appelons la spécificité du programme. Mm-hmm. Quelqu'un a parlé effectivement de la question, est-ce que le gouvernement essaie de réfléchir sur la cause de groupes armés ?
Et les revendications.
Et les revendications.
Et c'était Deo et Olivier aussi a évoqué la même question.
Voilà, maintenant je vais faire un petit commentaire. Mm-hmm. Avant qu'on arrive à la mise en place de ce programme, il y a eu des réflexions qui ont commencé depuis 2019, avant même qu'on mette le programme en place. Mm-hmm. Ces réflexions qui ont commencé à Bukavu, à Goma, à Kinshasa, il y a eu plusieurs ateliers sur les causes des échecs du DDR1, DDR2, et ce que réellement ils pensent, ce que peut devenir la nouvelle orientation du nouveau programme.
Oui.
On est arrivé à des conclusions pour savoir quelles sont les revendications des groupes armés réellement et quelles sont les causes de la prolifération des groupes armés. On a fait la cartographie. Tous ces documents existent. Il n'y a rien de nouveau ici. Mm-hmm. Chaque jour, on a l'actualisation des données. Il y a des services techniques qui donnent la cartographie des groupes armés. La cartographie ne veut pas seulement faire un mapping, une listing. Donc, ce n'est pas seulement une liste, mais la cartographie implique également les causes, les relations, la manière dont il se ravitaille, tout ça là. C'est ça la cartographie. Et là, je vais vous dire une chose. C'est que parmi les causes de la prolifération des groupes armés, on peut épingler, un, la pauvreté, deux, la manipulation politique, dont quelqu'un...
Olivier disait tout à l'heure, les intérêts économiques avec manipulation politique, oui.
La manipulation politique, l'implication sous-régionale, et on a relevé également la faiblesse
de l'autorité de l'État.
Ça, ce sont des résolutions qui sont contenues dans des documents qui ont fait l'objet d'analyses. Mais maintenant, les bases du PDDRC sont lesquelles? C'est tout ce qu'il est en train d'évoquer là. Mm-hmm. Vous voyez, il y a la question de la recherche de paix, de résolution des conflits et cohésion sociale. Il y a des conflits, il y a par exemple des problèmes, de groupes, il y a des groupes armés qui naissent, non pas parce que il y a eu, je ne sais pas, manipulation politique. Il y a des groupes armés qui sont nés à cause des revendications coutumières. Il y a des groupes armés... Des conflits fonciers. Mm-hmm. Les conflits de succession. Les conflits administratifs. Tout ça là. Et donc, nous avons pensé que le premier pilier dans la résolution de problèmes de groupes armés, il faut passer à la recherche de paix, résolution de conflits et cohésion sociale. Donc, des questions identitaires sont très importantes dans l'absorption de certains conflits et de certains groupes armés. Mmh. Alors, deuxièmement,
rapidement,
lorsque nous parlons de la restauration de l'autorité de l'État, c'est à travers, nous travaillons sur la restauration de l'autorité de l'État à travers le désarmement. Et la démobilisation, le relèvement et la réinsertion et la réintégration. Alors, il y a tout un mécanisme pour arriver à ça. Il y a ce qu'on appelle désarmement, dépôt des armes, il y a ce qu'on appelle également marquage des armes, il y a ce qu'on appelle identification, il y a le suivi psychosocial, il y a le suivi vous comprenez, le suivi psychosomatique, c'est tout ce qu'il était en train de relever là. C'est ça là, ce que nous appelons le nouveau PDDRCS.
Alors, on va écouter trois auditeurs. Mais la question maintenant, c'est, en bref, les éléments sont là. Mais où en sommes-nous aujourd'hui dans votre plan d'opérationnalisation? Vous avez fait, on a fait l'état des lieux. En ces moments où nous sommes en train de tenir l'émission, le programme est à quel niveau? Et on va écouter rapidement. Rapidement, on va écouter encore trois auditeurs.
Ouais, d'abord, je peux dire que nous avons, après l'état des lieux, qui nous a permis de mettre en place la stratégie nationale PDDRCS,
okay,
qui est un outil très important. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour sa validation. Il y a le plan d'action maintenant triennal que nous devons mettre en place et le plan d'action opérationnel annuel pour cette année 2022 qui sont en élaboration. Il y a le travail de la sensibilisation. Les consultations sont presque terminées. La mise en place des cadres de concertation pour chaque province. Les nominations des directeurs centraux est en cours. La nomination des coordonnateurs provinciaux, c'est dans quelques jours. La nomination des chefs d'antenne, le démarrage des opérations DD qu'on appelle désarmement et démobilisation pour 10 000 combattants pendant ces deux mois vont être déclenchés. Je vous annonce déjà que le coordonnateur national adjoint chargé des questions techniques et opérationnelles arrive aujourd'hui à Goma pour le désarmement de 3 000 combattants. Et ça va se poursuivre. Donc, il y a un travail qui est déjà en face.
Merci, voilà. Alors, Sylvain, vous êtes à Kisangani, éminent, et à Bukavu, Sadiki est à Kindu. On va vous écouter aussi rapidement. On ne saura pas tout aborder aujourd'hui pour l'ensemble des auditeurs. Mais en bref, Sylvain, bonjour. Pour vous, quels sont les préalables pour la réussite de ce programme?
Bonjour, madame.
Voilà, on a des petits soucis des lignes avec Sylvain. En attendant qu'on voit ici, on peut améliorer la ligne de Kisangani. Alors, on va à Bukavu, Emina. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Quels sont pour vous les préalables, Emina?
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour à l'invité. Bonjour à toute l'équipe qui vous accompagne et à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute rapidement, oui.
Tout en sachant que la guerre est la mère de toute misère et la sécurité est une affaire de tous, aussi bien que chacun à sa manière devait s'impliquer de loin de près pour que la paix devienne une réalité dans les zones les plus touchées. Le PDDR, si l'un de mécanismes efficaces pour stabiliser l'est du pays, nécessite l'appui de tout le monde et les recommandations formulées par le cadre de concertation ici de l'atelier tenu à Goma dans le souci d'éradiquer directement ce fléau. Qui en deuil du jour au lendemain, plus d'un Congolais, semble être vrai tout en tenant compte des mesures d'accompagnement afin de rétablir l'autorité de l'État dans les provinces, dans ces provinces. Les criminels régnent toujours au lieu des crimes. Nous savons très bien que le massacre de Beni dépasse même les limites du tolérable. Ce que nous pouvons seulement demander à travers cette émission ici, c'est de solliciter que toute personne qui est impliquée d'une manière indirecte ou directe dans ces atrocités puisse au moins cesser ça. Parce qu'il y a aussi des auditeurs qui avaient dit qu'il y a de la manipulation politicienne, et même notre invité avait dit qu'il y a les groupes armés qui sont nés de certaines réalités. Et nous voulons que notre pays puisse, pour que notre pays puisse décoller, parce que même les investisseurs qui peuvent vouloir venir investir au Congo, en écoutant tout ce qui est en train d'être fait à Beni et à Ituri, ils peuvent avoir toujours peur de venir en RDC. Et tout Congolais qui aime bien son pays doit aider le pays
Alors pour vous, votre plaidoyer éminent se trouve au niveau de l'implication. C'est-à-dire que pour réussir le programme, il faut l'implication de tout le monde, mais il faut aussi ces messages pour dire que ceux qui sont impliqués dans les conflits, d'une manière directe ou indirecte, puissent pouvoir cesser. Alors on m'informe que Sylvain est de nouveau en ligne de Kisangani. Sylvain, rapidement, quels sont pour vous les préalables? Bonjour Sylvain.
Bonjour la Radio Café. Moi je pense qu'en termes de préalable, il faut d'abord la conscientisation, la disposition des moyens financiers, pour réussir ce programme. Mais pourquoi je parle de la conscientisation? Il n'est pas toujours facile, monsieur le journaliste, de faire quitter quelqu'un d'un cas à un autre. Ça, vraiment, des accompagnements sérieux pour son adaptation dans la société où il serait acteur demain. Puisque faute de le faire, il risquerait de développer d'autres comportements dangereux qui mettraient à mal toute la société. Mais il faut encore avoir des moyens financiers. Il faut les accompagner non seulement moralement, psychologiquement, mais il faut encore disposer des moyens financiers. Puisque nous avons l'image de Conadeur. Et si vous voyez nos frères qui étaient dans l'armée, qui se sont retrouvés dans la vie civile, la façon dont ils ont vécu, il y en a même qui se sont donné la mort précocement, faute de bien vivre. Parce qu'en famille, on peut vous supporter. Et moi, après, on se débarrasse de toi, toi-même, tu te prends en charge. Mais si vous n'avez pas de moyens, comment s'y adapter? Et toutes ces conditions-là, tout se mène au commandeur ou à ces personnes déjà désarmées à développer d'autres conditions de vie pitoyable, monsieur le journaliste. Voilà pourquoi moi je me martèle
sur le finance, la conscientisation et les moyens sur financiers. Le plan
psychologique que des moyens financiers. Il faudrait que tous ces moyens soient mis en jeu pour leur réussite totale. Voilà.
Merci beaucoup. Alors on va écouter Sadiki Ketakindo. Sadiki, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour.
On vous écoute. Voilà, on a eu des petits soucis, hein, des lignes avec Sadiki. Nous revenons dans ce studio avec notre invité, Monsieur Tommy Tamboué, coordonnateur du programme du programme désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Alors, on a évoqué l'opérationnalisation. Vous avez donné les grandes lignes. Il y a aussi cette question de finances, de moyens, parce qu'on peut avoir tout ça, on peut dire, vous pouvez avoir toute votre stratégie. Est-ce que vous avez un accompagnement financier suffisant pour arriver vraiment à mettre en place, à réussir ce programme, comme l'a dit notre ami de Kisangani, qui c'est une des conditions majeures?
Oui, disons d'abord, nous félicitons les auditeurs, mais également les intervenants. Il y a Emine Adegoma qui a parlé...
De Bukavu,
qui a parlé de l'appui de tout le monde. Ça, c'est très capital. Et nous parlons, c'est ça même la clé de la réussite. Et nous disons, s'il n'y a pas l'appui de toute la communauté, de toute la population, de toutes les provinces, de tous les citoyens de la RDC, donc nous aurons dit à ce moment-là que le programme a échoué. Nous avons besoin que tous les citoyens congolais se mettent en tête que la RDC ne peut décoller, ne peut aller de l'avant que si la vision du chef de l'État est bien comprise en termes de la stabilisation de l'Est de la RDC. Et cela, le ventre mou de tous ces problèmes que nous sommes en train de connaître. Alors, revenons sur sa deuxième préoccupation de la manipulation politicienne. Il est clair aujourd'hui que les groupes armés sont sécrétés soit par les intérêts politiciens, soit par les intérêts économiques.
Oui.
Soit également, et c'est même ces deux intérêts, passent également par la manipulation de certains pays de la sous-région, de voisins surtout. Alors, en revenant sur la conscientisation, c'est qui a été évoqué par M. Sylvain, c'est la même chose. Donc, la conscientisation passe effectivement par l'appui, la compréhension de tout le monde par rapport au problème. Dès lors que ce pilier est réussi, à ce moment-là, nous sommes sûrs que le moyen financier vont venir. Le moyen financier dont nous parlons la plupart du temps, vous savez, monsieur le journaliste, c'est ici, en RDC, où nous avons souvent l'intention de dire sans l'appui de l'extérieur, on ne peut pas rester. là, c'est la volonté politique d'abord et la volonté des citoyens de ces pays. Dès lors que la volonté des citoyens de ce pays
est manifeste, les moyens peuvent suivre.
Les moyens vont suivre.
Alors, permettez, parce que je crois que la réalisation me fait voir que nous allons bientôt chuter. Est-ce qu'on peut permettre à Jean-Jacques Kabongo, qui est à Kinshasa, qui peut placer juste un mot, et on va revenir au coordonnateur pour chuter. Jean-Jacques, vous êtes avec nous. Juste un mot par rapport au préalable pour la réussite de ce programme.
Allô, merci. Kabongo Chimine Jean-Jacques, j'appelle depuis la ville-province de Kinshasa.
Rapidement, en un mot, oui.
Merci. Concernant le programme de désarmement, de mobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation, qui est en fait la fusion des DDR ainsi que des SAREC qui ont fait l'échec depuis les temps anciens, nous pensons que le préalable à ces programmes pour que ces derniers puissent réussir sera en fait beaucoup plus celui de pouvoir bien encadrer toutes les personnes désarmées. Comment comprendre quelqu'un qui vient de la brousse, qui a décidé d'abandonner la rébellion,
Jean-Jacques, désolé parce qu'on me fait voir à la réalisation que nous avons consommé vraiment notre temps, mais vous avez évoqué les cas de l'encadrement. Alors nous revenons au coordonnateur. On n'a pas tout abordé, mais quel est le défi majeur pour vous pour terminer cette émission en un seul mot? Quel est le défi majeur? Et je vais vous demander à la fin si ça peut être possible de dire un mot en swahili. Est-ce que c'est possible de lancer un message en swahili à ceux qui nous écoutent, ceux qui sont concernés par la question des mobilisations? Et ça va se dérouler dans 2 minutes. Cela veut dire, les défis majeurs pour vous, c'est quoi? Et la dernière minute pour terminer, c'est un message en swahili.
Le défi majeur de ce programme, c'est l'appui de tout le monde. Mm-hmm. C'est la conscientisation de tous les citoyens. C'est le moment où les citoyens doivent s'élever. De partout, de Mbandaka jusqu'au Tanganyika, de l'est à l'ouest, du sud au nord, tout au centre, tous les citoyens doivent dire
merci.
C'est la fin de la guerre maintenant en RDC.
Pourriez-vous lancer un mot en swahili pour ceux qui nous écoutent dans les zones concernées par les conflits armés qui parlent le swahili, bien sûr? En un mot.
Hii ni wakati ya kuleta amani. Watu watoke kwenye kutafuta vita na kuanzisha mambo ya uhasama. Wakati hii ni wakati ya kuleta amani. Vita yenye iko nafanyika Ruchuru, vita yenye iko nafanyika Mwayeo Plateau, vita inafanyika Njugu nafasi nyingine Beni, haina faida kwa wakongomani, ila ni kuwatuma kwenye utumwa. Msitike kuwa watumwa.
Merci beaucoup, Monsieur Tommy Tamboué, coordonnateur du programme PPDDRCS. Merci à Bob Landou, qui était à la mise en œuvre de ce magazine réalisé par Louange Vangou. Quant à moi, Pierrot Elamedji, je vous retrouve demain. Mais vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci et au revoir.